Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Soyez les bienvenus sur Point d'Orgue. Pour une fois, le calendrier liturgique me gâte et aujourd'hui, c'est la Toussaint. Alors, puisque le calendrier me gâte, à mon tour de vous gâter avec de la belle musique. Mais voilà, chers auditeurs, je suis confronté à une certaine confusion quant à la Toussaint. Tantôt pour certains, c'est la commémoration des morts, tantôt pour d'autres, c'est la fête de tous les saints, et finalement, nous ne savons plus à quel saint se fier justement. Et je vous l'annonce d'ores et déjà, je vais entretenir la confusion aujourd'hui. Alors avant de parler de la musique et de ce que je vous ai choisi, je vous fais un peu mariner, et on va faire un petit peu d'histoire quant aux origines de ces célébrations. Historiquement, c'est après la Pentecôte que la fête de tous les saints se tenait dans les églises orientales, vers le IVe siècle. Et d'ailleurs, c'est toujours à cette date que certaines églises, comme les orthodoxes, les églises catholiques orientales, et le rite byzantin la célèbrent. De manière concomitante à cela, à Rome, étaient organisées des célébrations entourant les martyrs. Donc on a déjà là un premier lien entre tous les saints, les martyrs, les morts. La célébration de la fête chrétienne de la Toussaint est une spécificité catholique qui est apparu en Occident au 8e siècle, quand on a décidé de fixer à peu près la date au 1er novembre. On pense que ça a été fixé vers là lorsque le pape Grégoire III dédicace à tous les saints une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Vers 835, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans toute la chrétienté, et là les historiens disent que c'est plutôt vers là que la date a été fixée au 1er novembre. Et là, on a eu cette connivence entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, puisque sur le conseil de Grégoire IV, l'empereur Louis le Pieux institua la fête de tous les saints sur tout le territoire de l'empire carolingien. Donc là, on comprend véritablement que ça a pris beaucoup de sens en Occident. La célébration de Toussaint fut suivie de manière très localement, presque folklorique, d'un office des morts dès le 9e siècle. En 998, si ma mémoire ne fait pas défaut, les moines de Cluny instituèrent une fête des morts le 2 novembre qui entra dans la liturgie romaine comme commémoration de tous les fidèles défunts. Là, c'est la dénomination que l'on connaît encore aujourd'hui. Mais, comme je vous le disais, de manière folklorique populaire, le culte des morts reste très célèbrement affirmé au 1er novembre également. Sur la question de la Toussaint, maintenant, je vous propose de voir la définition qui est donnée par Mgr Robert Le Gall dans son dictionnaire de la liturgie, où il définit la Toussaint comme une célébration qui groupe non seulement tous les saints canonisés, c'est-à-dire ceux dont l'Église assure en engageant son autorité qu'ils sont dans la gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui, en fait et les plus nombreux, sont dans la béatitude divine. Donc finalement, c'est assez large. Et cette idée de béatitude divine se comprend lorsqu'on lit l'évangile du jour de la Toussaint qui est les béatitudes. Donc il n'y a pas de confusion entre la commémoration des fidèles défunts et tous les saints, mais bien un rapport étroit. Maintenant qu'on a vu cette partie historique en avant la musique, et sans prendre de gants, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais tenter de signifier ce que je viens de vous exposer, c'est-à-dire des saints célébrés, d'une part, et une fête des morts. Et je me suis interrogé, qu'est-ce que je peux vous faire découvrir? Je me suis creusé la tête et je me suis dit, finalement, le mieux, c'est une messe. Et tant qu'à faire, si on prend une messe, on va chercher au firmament du génie musical et on va écouter la messe en si mineur de Bach. Alors, avant de vous parler des extraits qui nous intéressent aujourd'hui, je veux vous signaler un ouvrage dont je vous ai déjà parlé dans une autre émission. Il s'agit du livre de John Eliot Gardiner intitulé « Musique au château du ciel ». Si vous êtes des amoureux du cantor de Leipzig et qu'en plus vous êtes sensible aux interprétations de Gardiner, franchement, jetez-vous sur ce bouquin. Je ne peux que vous le conseiller, il est passionnant. Et à mon sens, on est très au-delà d'une simple biographie du plus grand musicien de tous les temps. Voilà, c'était une petite parenthèse, une petite pub, mais je pense que les mélomanes apprécieront. Je n'en suis qu'au premier tiers de l'ouvrage, donc je n'ai pas abordé les grandes compositions de Bach. Je vais donc vous livrer, là, dans cette émission, mes interprétations toutes nues. Alors, cette messe en si mineur de Bach, qui n'a de si mineur finalement que quelques morceaux, dont notamment le premier, c'est pour ça que le Kyrie est en si mineur, c'est pour ça qu'on dit la messe en si mineur de Bach. Mais la plupart des morceaux sont dans d'autres tonalités, notamment Ré majeur, on y reviendra, c'est une tonalité importante, ce quart très brillante, mais on va y revenir un petit peu après. Cette messe en si est considérée comme l'une des plus grandes œuvres de Bach, avec d'autres comme Les Passions, L'Art de la Fugue, etc. Je vous recontextualise brièvement Bach, un musicien allemand du XVIIe et XVIIIe siècle, issu d'une très grande et prestigieuse famille de musiciens, dont lui a été bien sûr le membre le plus illustre. Il est né dans le centre de l'Allemagne, il a poussé le style baroque dont on a déjà beaucoup parlé à son extrême raffinement. Il s'est illustré dans tous les genres musicaux, à l'exception notable de l'opéra, ça c'est un mystère, la symphonie classique n'existant pas encore. Et il a composé des chefs-d'œuvre pour tous ces genres, pour tous ces styles-là. Donc cette messe en si mineur, de manière plus particulière, elle est particulière parce qu'elle est extrêmement décousue dans sa maturation, mais malgré cela, elle contient une profonde unité. Cette messe a été composée sur des dizaines d'années. Il a commencé, Bach, par écrire le Sanctus pour Noël 1724. Il forme ensuite une Missa Brevis en ajoutant le Kyrie et le Gloria en 1733. Et enfin, la messe en si mineur telle que nous la connaissons aujourd'hui est agrandie avec le Credo et l'Agnus Dei. Je tiens quand même à vous signaler que Bach n'a jamais entendu l'exécution de sa messe en entier. Alors la partition est particulière à plus d'un titre. Elle est luthérienne dans l'esprit, comme l'était Bach, mais elle a une forme catholique. Dans les morceaux choisis, ainsi que dans la langue de la réalisation, qui est le latin. On peut penser que le côté catholique provient du dédicataire initial de la partition, c'était le prince électeur de Dresde qui était catholique, mais aujourd'hui, les musicologues ont tendance plutôt à mettre en avant le côté œcuménique de l'œuvre parce que Dresde, à l'époque, était une ville qui abritait les deux confessions. Et donc aujourd'hui, fête de tous les saints, il fallait bien, à mon sens, rendre hommage au premier d'entre eux, le Seigneur. Je vous propose donc une écoute du Sanctus de cette messe en si mineur. Il est en ré majeur, je vous avais dit qu'on y reviendrait, c'est une tonalité qui est éclatante. Ce qu'il y a de particulier dans ce Sanctus, c'est qu'il a une très grande solennité. Vous allez le voir plus tard, mais Bach est capable d'une immense virtuosité. Il aurait pu montrer cela dans ce mouvement, pour évoquer la gloire de Dieu, mais au contraire, le Sanctus apparaît ici comme une véritable affirmation. Le texte, le chant est presque proclamatif. Le Sanctus est présent, avec tout le cœur. Et l'orchestre, vous avez les timbales qui accentuent le mot même de Sanctus, qui, entre certaines affirmations, devient plus sinueux. Vous allez voir, la musique se fait presque lancinante. Comme si finalement la sainteté se frayait un chemin par tous les moyens. Dans un souci de cohérence musicale, je tiens à vous laisser la même interprétation de cette messe qui va nous suivre donc aujourd'hui. J'ai donc choisi, puisque je l'ai évoqué plus haut, la magnifique version de l'English Baroque Solist, le Monteverdi Choir et la direction très inspirée de John Eliot Gardiner.
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Et maintenant que nous avons dignement célébré les saints, le saint en particulier, le Seigneur, mais de manière plus globale, tous ceux qui sont en lui et qui ont œuvré pour lui, on va voir l'autre versant que je vous avais proposé en début de cette émission, c'est-à-dire le côté plus mortuaire finalement. Et donc on va puiser dans la même messe. Je vous propose donc d'écouter maintenant le Crucifixus de Bach. Alors je vais vous donner quelques clés de lecture de cette partition qui est absolument magistrale et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, cette messe en si mineur de Bach, elle a une architecture qui est très particulière. Elle est chiasmatique, c'est-à-dire qu'en gros, il y a comme si vous mettiez un miroir au milieu et en fait les parties se répondent jusqu'à se retrouver au centre de la pièce, de la messe, et il s'avère que ce centre-là, c'est la crucifixion du Christ. Cette crucifixion est dans une tonalité très particulière, mi mineur. C'est vraiment une tonalité très froide. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils voient des lettres, voient des couleurs. Et de la même manière, je trouve, moi, et visiblement Bach est un petit peu dans cette mouvance-là aussi, que certaines tonalités portent des messages particuliers. Mi mineur, c'est presque aride, à mon sens. Vous allez l'entendre de toute façon très très rapidement. On est totalement dans une autre atmosphère que ce que vous venez d'entendre avec le Sanctus. Vous avez donc une tonalité très particulière, très aride donc. Et ensuite, vous avez une métrique particulière. La métrique, qu'est-ce que c'est ? En musique, c'est la manière dont on va découper les phrases musicales de sorte à y inscrire les rythmes et le tempo. Vous avez des phrases, des mesures qui sont à trois temps, à 3-2. Alors, le sens le plus évident de 3, c'est bien entendu la Trinité, la complexité de la Trinité que l'on retrouve en permanence chez Bach. Moi, quand j'écoute le Crucifixus, je vois quelque chose d'autre, j'entends quelque chose d'autre. Quand il y en a 3, moi je vois la croix, je vois la crucifixion, je vois les clous qui sont mis de part et d'autre, donc une dans une main, un clou dans l'autre main, un clou pour les pieds. Et donc c'est ces trois-là qui sont les coups de marteau qui infligent les plaies au Christ. C'est d'autant plus lancinant que vous avez les violons et les flûtes qui se répondent et qui font juste ces coups, ta, 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 et qui ne s'arrêtent jamais. On cloue le Christ en permanence durant cet extrait. Et de l'autre côté, on a la basse. la basse deux fois plus rapide, yam, tim, tam, tim, tam, tim, tam, qui ne s'arrête jamais. On a l'impression que le temps s'écoule de manière inexorable, que finalement rien, rien n'arrête ce processus infernal de la crucifixion du Christ. De la même manière, on peut voir le côté inexorable de la montée du Christ vers le Golgotha jusqu'à sa crucifixion. Et de toute façon, là, on a toujours une idée de mouvement. Chez Bach, la musique n'est jamais statique. Alors on commence avec effectivement les basses qui vont descendre peu à peu dans le grave. Et de la même manière, quand les choristes vont commencer à chanter Crucifixus, alors déjà, on n'a pas du tout un chœur qui va commencer à chanter en même temps. On n'est pas du tout dans la même tonalité que le Sanctus où tout le monde commence à plein poumon. Là, c'est très différent. On va commencer avec une seule voix et en fait, les voix vont s'empiler les unes aux autres. Mais elles vont bien entendu s'empiler d'une façon tout à fait particulière. Ici, il va y avoir un mouvement descendant. Donc là, on peut se poser plusieurs questions. Ce mouvement descendant, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, j'y vois plusieurs choses. J'y vois l'incarnation. Parce que quand on parle d'incarnation du Christ, où est-ce qu'il s'est incarné ? Il s'est incarné dans une mangeoire, avec un père qui travaillait le bois. Mais le bois de la mangeoire, c'est aussi le bois de la croix. Et ça, il faut toujours l'avoir en esprit quand on évoque le bois, quand on évoque la naissance, l'incarnation du Christ. Et donc, à mon sens, cette descente-là, peut venir de l'incarnation. Il y a également une autre descente que l'on peut observer, c'est la catabase, la descente aux enfers. On dit que le Christ est allé aux enfers après avoir été crucifié, de sorte à libérer les pécheurs. Donc évidemment, quand on pense au Christ crucifié, il est impossible de ne pas penser aux enfers et donc d'envisager cette descente aux enfers qui est faite par la musique. Et la descente est généralisée. C'est-à-dire que vous avez d'une part les instruments. Alors, de manière un petit peu paradoxale, on a ces violons et ces flûtes qui se répondent. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'espérance ? Mais d'un autre côté, c'est inexorable. Vous avez ces basses lancinantes qui ne s'arrêtent jamais et qui descendent inexorablement vers le grave. Maintenant que vous avez ces clés de lecture, j'espère que vous allez pouvoir comprendre le génie de Bach dans cette partition qui est tout à fait singulière et qui représente, je vous le rappelle, le sommet de cette messe en si mineur. Je vous laisse donc avec le Crucifixus. Et voilà, comme toujours chez Bach, du génie, du génie. Déjà avec cette fin incroyable qui, tellement intimiste, mais en même temps tellement infinie, on retourne dans ce que je vous avais déjà expliqué à plusieurs reprises, ce moment où un morceau mineur devient majeur. Et là, on s'interroge, on ne peut que s'interroger, qu'est-ce que veut dire Bach dans ce moment si terrible, si angoissant? Et finalement, bien sûr, on comprend que c'est par cette crucifixion que le Christ va sauver l'humanité. Et bien entendu, je pense que c'est tout à fait cela que Bach essaie de mettre en musique, complètement. Alors, vous le savez, cette émission est en podcast. Vous pouvez la réécouter. Je vous invite à le refaire, ne serait-ce que pour de nouveau comparer le Sanctus avec ses accords majeurs, ses accords parfaits, ces magnifiques tonalités, et d'autre part ce Crucifixus qui est vraiment incroyable parce que tout en étant très harmonique, il a une écriture très différente. Il y a beaucoup de chromatisme, c'est-à-dire qu'effectivement les sonorités sont extrêmement proches, sont presque dérangeantes. Alors on n'est pas sur quelque chose d'inaudible, mais on reste sur quelque chose de dérangeant. Vraiment, ces chromatismes, ce sont les échardes du bois de la croix. Et ça, je pense que c'est vraiment une douleur auditive qui doit rapporter à celle de la passion du Christ. De la même manière, et pour pas terminer avec quelque chose de totalement triste, je vous invite à faire vous-même vos propres recherches. Alors voilà, vous avez du travail pour une fois. Allez sur Internet et écoutez la suite directe de ce Crucifixus. Écoutez-la parce que ça a un sens profond, évident, de se retrouver avec quelque chose d'aussi intimiste et aussi terrible et de terminer en apothéose, on retourne en ré majeur, cette tonalité triomphante, et d'entendre le Et Resurrexit, qui est l'un vraiment des caractères les plus brillants qu'ait jamais composé Bach. Je vous invite donc à écouter ce morceau après avoir entendu le Crucifixus. Mesdames, messieurs, nous devons arrêter ici notre voyage pour la Toussaint. Je vous invite, pour ceux qui sont toulousains, à venir écouter la Scola de Saint-Sernin ce soir, chanter les vêpres solennelles de la Toussaint ainsi que la solennité à proprement parler. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle fête de la Toussaint. À bientôt.